Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Extravagance. Quelle joie de partager la parole de Dieu avec toi aujourd'hui. Nous espérons que celle-ci puisse t'inspirer, t'encourager et fortifier ta foi.
Ce soir, nous poursuivons cette série sur Christ, Jésus-Christ, notre rocher. Nous voulons baser notre vie sur lui et nous voulons construire notre vie sur ce que Christ a posé comme fondement. Et nous allons voir ce soir, au travers d'un récit de la parole de Dieu, eh bien, un aspect de la puissance de Christ. Si on vous parle de puissance ce soir, si je vous pose la question, quelle est la plus grande puissance qui existe dans ce monde? Quelles seraient vos réponses? Lorsqu'on fait des recherches sur Internet, j'ai posé cette question sur un moteur de recherche sur Internet, et les premières réponses qui sont sorties sont en rapport avec les puissances armées de ce monde. Moi, la première pensée qui m'était venue, c'est la puissance nucléaire. Et ces puissances-là sont liées à des puissances qui ont la capacité de doter la vie, d'enlever la vie. Mais aujourd'hui, ce soir, j'aimerais vous parler d'une puissance qui donne la vie. C'est une puissance qui est au-dessus de toute autre puissance. Une puissance qui n'a jamais été manifestée par n'importe quelle armée. Une puissance qui n'a jamais été manifestée par les connaissances scientifiques, si grandes soient-elles. C'est la puissance de la résurrection. Rien n'égale cette puissance. C'est une puissance qui donne la vie. La science fait tout pour repousser les limites de la vie. Et on cherche à vivre le plus longtemps possible. Mais aucune science n'a réussi à ressusciter quelqu'un qui était décédé. Quand bien même cette personne aurait de l'influence, serait une personne importante et aurait beaucoup d'argent. La science ne peut pas ressusciter les morts. Mais la parole de Dieu nous dit que Christ est ressuscité. La parole de Dieu, Paul va nous dire dans l'Épître aux Romains que l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous. La même puissance qui s'est manifestée pour que Christ sorte du tombeau, cette puissance habite en nous. Et Paul va dire, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera la vie aussi à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Et nous portons cette puissance. Et pour parler de cette puissance, ce soir, j'aimerais lire avec vous ce qui s'est passé un jour dans un petit village en Judée, un village qui s'appelait Béthanie, où Jésus avait des amis dans ce village, une famille pour laquelle il avait beaucoup d'affection. Et un jour, cette famille s'est retrouvée dans une situation dramatique, une situation douloureuse. Cette famille a eu à faire face à différents problèmes. Et je vais lister quelques-uns de ces problèmes avec vous ce soir. Dans un premier temps, cette famille a eu à faire face au problème de la maladie. Et j'aimerais qu'on lise ensemble dans Jean chapitre 11, et du verset 1 jusqu'au verset 3. « Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère, Lazare, qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Jésus est prévenu que Lazare, son ami, est malade. Une situation qui semble suffisamment préoccupante aux yeux de Marthe et de Marie pour qu'elles envoient quelqu'un chercher Jésus, dire à Jésus, donner à Jésus ce message. Et le message est simple, ça tient en une phrase. « Seigneur, voici celui que tu aimes. Celui que tu aimes est malade. » Leur demande nous en dit beaucoup sur ce qu'elles pensaient de Jésus, ce qu'elles voyaient en Jésus. Déjà, elles l'appellent « Seigneur ». Elle s'adresse à lui en disant « Seigneur ». Et elle savait à quel point Jésus était rempli de compassion. Elle croyait que Jésus se souciait de son ami, de Lazare qu'il aimait, de cette famille qu'il représentait. Elle savait que Jésus se souciait d'eux. D'ailleurs, au verset 5, il nous est dit que Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Donc, elle connaissait l'affection que Jésus avait pour eux. Il était donc logique qu'elle pense que Jésus va venir à leur aide alors qu'elle en avait le plus besoin. Elle savait aussi qui était Jésus. Au verset 27, Marthe va parler de Jésus en tant que Christ, le Fils de Dieu. Elle s'adresse à lui en se tournant vers lui parlant de lui comme étant le Fils de Dieu. Et donc, il était normal qu'elle fasse appel au Fils de Dieu pour venir guérir son frère qui était malade. Cette demande de Marthe et Marie nous permet de souligner quelque chose d'important. C'est que lorsque nous passons par des moments difficiles, lorsque nous avons des problèmes dans notre vie, le premier recours que nous devons avoir dans la difficulté, c'est de nous tourner vers Jésus, de faire appel à Jésus. Lorsque les problèmes surgissent dans notre vie, pour avoir de l'aide, il nous faut nous tourner vers lui. Et lorsque nous le faisons, nous devons le faire avec cette ferme confiance et croire qu'il est capable de faire ce que nous demandons. C'est lui qui a déclaré à plusieurs reprises, il va dire par exemple dans Matthieu chapitre 21 verset 22, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Et donc Marthe et Marie vont envoyer quelqu'un pour chercher Jésus, pour faire appel à Jésus. Elles font, on va dire, une prière à Jésus. Et il y a donc le problème de la maladie, mais il y a aussi un autre problème. Elles vont faire face au problème de l'attente. Il y avait un caractère urgent dans la situation dans laquelle elles étaient. Et voyant l'état critique de leur frère, Marthe et Marie comprennent que c'est important que Jésus vienne et qu'il vienne rapidement. Elles étaient dans cette attente que Jésus vienne rapidement. Mais quand Jésus entend leur demande, il va réagir d'une manière assez surprenante. Au lieu de se lever et de parcourir les quelques kilomètres qui le séparaient de Béthanie, Jésus reste dans la ville où il est pendant 2 jours encore. Et il dit au verset 4, il va dire à ses disciples, il va parler du rétablissement de Lazare, il va dire que cette maladie n'est pas pour la mort. Donc il parle du rétablissement. Mais il laisse aussi ses disciples comprendre que ce sont des circonstances particulières. Il laisse entendre aux disciples que Lazare va mourir. Et quand il reçoit l'information que Lazare est malade, Jésus va dire à ses disciples, cette maladie n'est pas à la mort. Et c'est étonnant que d'emblée, Jésus fasse allusion à la mort. Et plus tard, au verset 14, Jésus va dire à ses disciples, il va dire ouvertement à ses disciples que Lazare est mort. Alors imaginez ce qui se passe dans la tête des disciples. Ils ont entendu Jésus dire « cette maladie n'est pas pour la mort ». Donc moi, si j'entends Jésus dire ça, ça veut dire qu'il ne va pas mourir. Et pourtant, eh bien, Jésus va leur dire, alors qu'il n'est même pas allé à Béthanie et personne n'est venu lui annoncer la mort de Lazare, il va dire ouvertement à ses disciples « Lazare est mort ». Jésus n'aurait-il pas pu guérir Lazare ? N'aurait-il pas pu, même là où il était, sans même se déplacer, déclarer une parole et rendre la santé à Lazare ? Il avait déjà accompli ce genre de guérison. Il l'a fait pour un enfant qui était malade. Il l'a fait pour le serviteur d'un centenier qui était souffrant. Et cet homme disait, « Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Et il rentre chez lui, son serviteur était guéri. Jésus n'avait pas besoin de se déplacer pour que la puissance de Dieu se manifeste. Mais il n'a pas guéri Lazare, il n'a pas prononcé une parole, il n'est même pas allé voir son ami qui était malade. Pourquoi ? Pourquoi a-t-il attendu que Lazare soit mort avant de retourner à Béthanie ? Parce qu'il savait que Dieu serait davantage glorifié par la résurrection de Lazare que par sa guérison. Au verset 4, il est dit, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Dieu sait parfaitement quand et comment agir. Il n'est jamais surpris. Dieu reçoit davantage de gloire dans les pires conditions dans lesquelles nous pouvons nous trouver que dans les conditions les plus faciles qui sont les nôtres. C'est dans nos difficultés, c'est dans nos épreuves que Dieu peut être glorifié parce qu'il a la possibilité de se manifester. Et du coup, Marthe et Marie ont vu leur frère dépérir, ils l'ont vu mourir, ils ont dû laver son corps, ils ont dû le déposer dans le tombeau. Elles ont ressenti la douleur, elles ont ressenti le chagrin, elles ont ressenti la peine. Elles ont dû vivre une situation impossible, une situation douloureuse. Et n'est-ce pas vrai de dire que c'est aussi parfois comme ça dans notre vie ? Nous aussi, eh bien, il y a des moments, oui, certes, il y a des moments où on prie et Dieu répond presque instantanément. Mais il y a d'autres moments où la réponse n'est pas instantanée. Et nous apportons notre problème au Seigneur et Dieu reste silencieux. On l'invoque, on fait connaître nos besoins et on s'appuie sur la parole de Dieu. Mais il n'y a pas de réponse. La seule réponse qu'on a en retour, c'est rien. Et sans même que le problème s'empire, et la situation devient même désespérée. C'était le cas de Marthe et Marie. Mais qu'est-ce que nous devons faire dans ces moments-là? Dans les moments de silence divin, qu'est-ce qu'il est bon pour nous de faire? Rappelons-nous dans ces moments que Jésus a su voir ce que Lazare, ce que les sœurs de Lazare, Marthe et Marie, et ses disciples n'ont pas vu dans cette situation. Jésus voyait au-delà de la crise, il voyait au-delà du problème, il voyait au-delà de l'instant présent, il voyait la gloire que Dieu allait recevoir au travers de cette crise. Il savait qu'il y avait quelque chose au-delà de la douleur, il savait qu'il y avait quelque chose au-delà du problème qui était immédiat dans leur vie. Dieu en sait plus que nous sur nous. Dieu en sait plus que toi sur toi. Dieu en sait plus que toi sur ce que tu traverses. Il voit ce que tu traverses. Il voit ce que toi, tu ne vois pas dans ce que tu traverses. La parole de Dieu nous dit, le roi Salomon nous dit que l'Éternel, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Dieu voit. Dieu te voit. Dieu voit ta situation. Il nous est dit dans l'Épître aux Hébreux que nulle créature n'est cachée devant lui. Tout est nu, à nu et à découvert devant lui. Tes circonstances sont nues et à découvert. Dieu voit ce que tu vis. Dieu voit ce que tu traverses. Et notre part est d'apprendre avec confiance, même si nous n'arrivons pas à comprendre ce qu'il fait, même si nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi il fait les choses comme ça, c'est de lui faire confiance. Parce qu'il connaît l'issue avant même que le problème soit né. Notre seul devoir, c'est de nous attendre à lui, de nous attendre à l'intervention de Dieu, qui est de croire en lui. Jésus va dire dans Marc chapitre 11, verset 22, « Ayez foi en Dieu ». Il va dire à ses disciples dans Jean chapitre 14, verset 1er, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez aussi en moi ». Voilà notre part, lorsque il nous semble que nous traversons des moments de silence de la part de Dieu. Ou comme dans le psaume 62, le verset 8, où il est dit « En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. » Marthe et Marie ont fait face au problème de la maladie. Elles ont fait face au problème de l'attente. Et finalement, elles ont fait face à la mort. Au verset 17, quand Jésus arrive à Béthanie, il nous est dit, Jésus étant arrivé, il trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Lazare est mort. Les choses sont allées de mal en pis. La situation est passée du désespoir à l'impossible. Lazare est mort et Jésus n'avait rien fait pour empêcher que cela n'arrive, alors qu'il aurait eu la possibilité de le faire. Il avait le pouvoir de le faire, jusqu'à ce que le problème devienne un problème insurmontable, insoluble. Et cela a engendré un autre problème dans le cœur de Marthe et Marie, un problème qui peut nous arriver aussi, le problème du doute. Les prières de Marthe et Marie semblaient être restées sans réponse. La maladie avait vaincu et elles se trouvaient là, découragées, affligées. Et leur affliction était due à la fois certainement à la mort de leur frère, la séparation d'avec leur frère, mais aussi, probablement peut-être aussi, le manque de compassion, le manque de considération qu'elles pouvaient ressentir de la part de Jésus dans ce moment-là. Lorsqu'elles vont faire face à Jésus, Marthe va exprimer ce qu'elle a dans son cœur, et on le voit au verset 21, Marthe va dire, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » On entend là des regrets, on entend de la déception. En fait, elle était en train de lui dire « Mais pourquoi tu n'es pas venu ? On pensait que tu nous aimais. On pensait que tu aurais été là quand nous aurions eu le plus besoin de toi. » Et beaucoup de croyants perdre la bataille dans ces moments-là. Quand la réponse de Dieu tarde et qu'on pense que ce n'est plus possible, qu'on pense que la fatalité est arrivée. Et parfois, eh bien, dans ces moments-là, on va se mettre en colère contre Dieu parce qu'il n'a pas fait ce qu'on lui a demandé. Et c'est là que certains abandonnent la foi. Ce qui laisse aussi voir les motivations de notre foi. Est-ce que nous croyons en lui pour qui il est? Ou est-ce que nous croyons en lui pour le bien qu'il nous apporte? Quelle est la motivation de ma foi? Est-ce qu'aujourd'hui je crois en Dieu parce que Dieu me fait du bien, parce que je peux être heureux, parce qu'il me promet la paix, il me promet la joie? Ou est-ce que je suis heureux, je suis béni, je suis content simplement d'être son enfant et de savoir que mon nom est inscrit dans le livre de vie? Malheureusement, lorsque nous ne voyons pas à Dieu agir dans nos circonstances comme on le voudrait, eh bien, ce sont des situations où on est face au problème, le même problème devant lequel étaient Marthe et Marie, le problème du doute. Et j'aimerais vous encourager ce soir. J'aimerais que la parole de Dieu fasse son travail dans nos cœurs ce soir, pour nous donner espoir, même si nous n'avons pas encore reçu ce que nous avons demandé à Dieu. Il est toujours trop tôt pour abandonner. Marthe et Marie ont fait face au problème de la maladie, de l'attente, de la mort et du doute. Mais face à ces problèmes insurmontables, Jésus va faire des promesses inconcevables. Quand Jésus arrive à Béthanie, il tombe sur cette scène de désespoir. Il trouve là des gens en pleurs, tristes. Le village était dans la lamentation. Il trouve deux sœurs qui ont le cœur brisé. Il trouve des gens qui n'ont absolument aucun espoir que quelque chose de bien puisse sortir de cette situation tragique. Et là, dans cette situation, Jésus va faire une promesse. Il donne une promesse au sujet de la vie. Marthe rencontre Jésus qui lui dit que son frère va ressusciter. Et elle dit, oui, je crois que mon frère va ressusciter plus tard, au moment de la résurrection des morts. Mais ce n'était pas ce que Jésus était en train de lui dire. Ce qu'il voulait dire ici. Lazare n'a pas besoin d'attendre jusqu'à la résurrection, jusqu'à mon avènement, pour revenir à la vie. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Jésus déclare qu'il est la résurrection et qu'une personne qui vit dans cette relation avec lui, dans la foi en lui, peut saisir cette puissance de vie et vaincre la mort. Et Jésus donne une autre promesse qui est plus large, qui ne s'adresse pas seulement à Lazare et à Marthe à ce moment-là, mais une promesse de délivrance pour chacun d'entre nous. Il poursuit en promettant à Marthe que ceux et celles qui placent leur confiance en lui ne connaîtront jamais la mort. Au verset 26, il est dit « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Alors cela ne veut pas dire que nous allons vivre éternellement sur cette terre, que nous n'allons pas connaître la tombe, mais cela signifie que ceux qui croient en lui ne vont pas faire l'expérience de ce que la parole de Dieu appelle la seconde mort. L'apôtre Paul va dire dans l'Épître aux Romains que le salaire du péché, c'est la mort. Mais pas seulement la mort physique, c'est la séparation d'avec Dieu, la séparation éternelle d'avec Dieu. Et l'Apocalypse, au chapitre 20, le verset 14, il nous est parlé de la seconde mort, qui est l'étang de feu. C'est le fait d'être séparé éternellement de Dieu. Et ça signifie qu'un croyant qui fait l'expérience de la mort physique, il quitte cette condition terrestre, il quitte ce monde de douleur, il quitte ce monde de chagrin, de souffrance, de difficulté pour aller vers une autre demeure où il y a la paix, où il y a l'amour, où il y a la joie et où il entre dans la présence de Dieu pour l'éternité. À tel point que Paul va écrire, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps pour demeurer auprès du Seigneur. Paul avait compris qu'il valait mieux être auprès du Seigneur que de vivre dans ce corps. Et quand Jésus donc arrive à Béthanie, au milieu de cette famille, en deuil, sans espoir, il vient pas seulement avec des paroles apaisantes, il entre dans cette situation désespérée en démontrant sa puissance souveraine. Il ne s'est pas contenté de faire des promesses, mais il vient faire quelque chose pour régler le problème. Et Jésus veut venir dans ta vie pour régler le problème. Et c'est ce que tu peux vivre aussi ce soir, si tu crois. La manifestation de sa puissance dans ces circonstances sera la même qu'il peut utiliser pour agir dans ton cas et dans ta situation, même si tu considères que ta situation est désespérée. Et comment est-ce que Jésus est intervenu ? Une des caractéristiques de son intervention, c'est que sa puissance s'est manifestée avec compassion. Nous voyons Jésus qui est ému par la scène qui se déroule devant lui. Marthe et Marie sont là, elles pleurent la mort de leur frère. Elles sont dévastées, elles ont le cœur brisé, elles sont au plus bas émotionnellement. Jésus voit ce chagrin. Et Jésus est touché par ce chagrin. Et la parole de Dieu nous dit qu'il frémit en son esprit. Il est tout ému. Au verset 35, Jean 11, 35, qui est le plus petit verset de la parole de Dieu, il est dit, Jésus pleura. Et encore, pour ajouter une couche au verset 38, il est dit encore, frémissant de nouveau en lui-même. Voilà comment Jésus était, alors qu'il était entouré de cette foule de personnes qui étaient dans la douleur, parce que Jésus était profondément touché par la douleur qu'entraîne la mort dans le cœur de ceux qui restent. Même s'il savait ce qu'il allait faire, il n'était pas indifférent à la douleur, à la peine et à la souffrance. Même s'il savait qu'il y allait avoir un temps de joie, un temps où le Père allait être glorifié, un temps où ceux qui étaient là dans le deuil allaient retrouver la joie. Il savait ce qui allait se passer, mais nous le voyons pleurer. Et ses larmes, son émotion, nous rappellent à quel point le chagrin, la peine que quelqu'un peut ressentir, le touche. Jésus ressent la douleur de ses amis, il est touché par cette douleur. Et vous allez me dire, mais à quoi bon? Pourquoi il a permis cela? Il aurait pu éviter tout cela. Mais au-delà du miracle de la résurrection, ça nous permet aussi de voir que Dieu se soucie de nous. Dieu se soucie de ce qui nous arrive. Dieu se soucie de ce qui t'arrive. Il n'est pas une divinité lointaine qui est détachée de tout ce que tu peux vivre et de la souffrance que tu peux ressentir. Il sait ce que tu vis. Il connaît tes larmes. Il connaît tes souffrances. Et il est capable de compatir à nos faiblesses, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Pierre va dire « Déchargez-vous sur lui », on l'a chanté tout à l'heure, « Déchargez-vous sur lui ». Pourquoi ? Parce qu'il prend soin de vous. Parce qu'il est rempli de compassion et dans cette situation désespérée, il va manifester sa puissance avec compassion. Et il comprend là où tu es, il comprend ce que tu vis, dans ce que tu vis, il veut t'accorder sa grâce comme il a fait pour Paul en disant à Paul, ma grâce te suffit. Au travers, avec ma grâce, tu peux traverser cette difficulté, tu peux traverser cette épreuve. Et il veut qu'on puisse expérimenter ce que Paul lui-même va écrire lorsqu'il va dire, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On peut expérimenter cela. On peut expérimenter le fait d'être renouvelé dans nos forces, puisque la parole de Dieu nous dit dans le livre du prophète Ésaïe qu'il est celui qui renouvelle les forces de ceux qui se confient en lui. Et nous voyons au verset 41, Jésus se tient devant le tombeau. Et il nous est dit au verset 41, « Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » On voit ici que Jésus va accomplir le miracle en étant en parfaite connexion avec le Père. pendant qu'il était ici, Jésus n'a rien fait pour lui-même et de lui-même. Tout ce qu'il a fait était déterminé par le Père. On peut lire cela dans Jean, le chapitre 5, le verset 19, où c'est Jésus lui-même qui va dire « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. » On voit la connexion qu'il y a entre le Père et le Fils. Ils marchent conjointement pour manifester la puissance dans cette situation de désespoir. Et à cette occasion, Jésus a élevé la voix vers son Père. Il se tourne vers son Père pour obtenir la puissance nécessaire pour que Lazare ressuscite d'entre les morts. Jésus nous dit que cette prière n'avait même pas besoin d'être dite à haute voix. Le Père entend toujours le Fils quand le Fils l'appelle. Jésus aurait pu parler simplement dans son cœur et la réponse aurait été la même. Mais Jésus a invoqué son Père pour que les gens qui sont là, qui étaient là autour de lui, l'entendent faire cette prière et pour que les gens qui sont là sachent et que nous sachions aussi qu'il a le pouvoir de nous aider lorsque nous sommes confrontés à des situations désespérées dans notre vie. La prière faite par Jésus ce jour-là a donné de l'espoir à ceux qui l'ont entendu. La prière faite par Jésus ce jour-là a montré la connexion qu'il y a entre Jésus, le Fils, et le Père. Et cette connexion, elle existe toujours aujourd'hui. L'apôtre Paul va nous dire dans Romains chapitre 8, le verset 34, que Christ est mort bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait à la droite de Dieu? Il intercède pour nous. Il intercède pour toi. Cela signifie que Jésus est toujours dans cette connexion avec le Père. Il a toujours l'attention du Père et il intercède en ta faveur. Il y a une connexion céleste qui devrait nous faire donner de l'assurance que notre situation, dans notre situation, si désespérée soit-elle à nos yeux, elle n'est pas impossible pour Dieu. Cela signifie que nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Nous ne sommes pas en train d'errer sans but dans l'espoir que les choses s'arrangent. Nous pouvons nous attendre à lui. Nous sommes entre les mains de Jésus. Nous sommes entre les mains du Père. Jésus lui-même va dire, quand il va parler au chapitre précédent, dans Jean 10, il parle de lui comme étant le bon berger. Et il va dire, « Je donne la vie éternelle à mes brebis. Elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. » Et mon Père qui me les a donnés est plus grand que nous et personne ne les ravira de la main de mon Père. Voilà où tu te trouves, tu es entre les mains de Dieu. Dieu qui a compassion de toi, il connaît le chemin que tu parcours. Il connaît chaque pas que tu fais dans ta vie. Le psaume 37 nous dit « L'Éternel affermit les pas de l'homme et prend plaisir à sa voix. » Dieu connaît ce que tu vis, Dieu connaît ce que tu traverses. Et cela nous rappelle que Dieu a le contrôle sur notre vie, même lorsque nous serions dans une situation qui, à nos yeux, serait désespérée. Et c'est ainsi que Jésus va ordonner qu'on roule la pierre qui était devant le tombeau. Et il va faire l'impensable. Il s'approche de la tombe et il va s'écrier d'une voix forte, « Lazare, sors !» Jésus ordonne à un mort d'obéir à un commandement. Un commandement qu'il ne peut pas entendre, un commandement auquel il ne peut pas obéir parce que les morts n'entendent pas, les morts ne peuvent pas obéir aux ordres. Pourtant, Lazare a obéi à cet ordre. Comment est-ce possible? Parce qu'il n'était plus mort. Sur l'ordre de Jésus, Lazare est revenu à la vie, il est sorti du tombeau. L'une des plus grandes puissances qui peut être manifestée dans ce monde. La puissance de sortir de la mort pour revenir à la vie. Et Jésus va dire « Déliez-le et laissez-le aller. » Une simple phrase de Jésus a la même puissance qui a été provoquée au moment de la création, qui s'est manifestée au moment de la création de l'univers, a fait sortir cet homme, Lazare, de la mort à la vie. Il est le Seigneur souverain, celui qui a le contrôle absolu sur toute chose. La parole de Dieu nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Paul va dire que Dieu peut nous donner infiniment au-delà de ce que nous demandons, de ce que nous pensons. Et Jésus lui-même va dire que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir a été donné à Jésus dans le ciel et sur la terre. Donc ta situation, tu peux la mettre entre les mains de Dieu parce qu'il a le pouvoir là-haut dans le ciel. Mais ce qui est là-haut dans le ciel, la puissance qui est là-haut dans le ciel peut se manifester aussi dans ta vie. Et s'il peut parler pour que la terre vienne à l'existence et que les planètes soient formées, il peut parler aussi dans ta situation désespérée. S'il est capable de s'occuper des poissons qui sont dans les mers, des oiseaux qui sont dans le ciel, des animaux qui sont sur la terre, il prend soin de la création. S'il est capable de prendre soin de la création, il est capable d'agir dans ta situation désespérée. S'il est capable de calmer les vagues, de faire taire la tempête, il est capable aussi d'agir dans ta vie, de faire taire les tempêtes et d'agir dans ta situation, si désespérée soit-elle à tes yeux. S'il est capable d'ouvrir les yeux des aveugles, il est capable d'agir dans ta situation désespérée. S'il est capable de nourrir une multitude de 5000 personnes, voire plus, puisque les hommes seulement étaient comptés à ce moment-là, avec seulement 5 pains et 2 poissons, il est capable d'agir dans ta situation financière désespérée. Il est capable d'agir dans ton travail. Il est capable d'ouvrir des portes. Il est capable de faire ce que toi, tu ne peux pas faire. S'il a su vaincre le péché sur la croix, s'il a su vaincre la mort au tombeau, il peut s'occuper de ton cas désespéré. Et nous l'avons chanté tout à l'heure, et la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 15 que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Pourquoi ? Parce que Dieu a la puissance, une puissance plus grande, la puissance de vie qui est en Dieu est plus grande que la puissance de la mort. Et cette même puissance habite en nous, nous dit la parole de Dieu. Et Jésus a marché dans cette situation qui semblait tellement désespérée pour ceux qui étaient là. Et il n'a pas seulement apporté de l'espoir, il a renversé la situation. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Dieu ne veut pas seulement te donner de l'espoir, il veut renverser ta situation. Il veut changer le mal en bien. Il veut changer la malédiction en bénédiction. Il veut intervenir dans ton problème, dans ta situation, pour que tu puisses expérimenter la gloire de Dieu. Jésus disait à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je veux te dire ce soir, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.